Bonsoir, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle séance, ce nouveau service dans lequel nous allons aller dans la parole de Dieu, apprendre plus de lui et espérons être richement bénis. Donc à tous et à toutes qui êtes connectés, bienvenue. Comme vous aurez remarqué, c'est une place qui est différente que les dernières semaines. C'est un visage qui est différent aussi. Et bien, comme le pasteur Florent l'a annoncé dimanche passé, c'est moi qui prends la relève pour les prochaines semaines, comment le Seigneur nous dirigera. Le pasteur Florent a été très occupé avec les différentes sessions, les différentes interventions, que ce soit le matin, que ce soit le mercredi, le vendredi. Donc, on peut accorder un peu de repos. Donc, si tu nous écoutes, Florent, merci pour ton travail. Merci pour les efforts que tu rends, que tu as rendus jusqu'à maintenant et que le Seigneur continue à te bénir. Donc, voyez, c'est un endroit qui est familier pour nous tous. Une fois de plus, je me trouve près du piano. Et la raison est bien simple, c'est que pour une question d'espace, à la maison, ça aurait été un petit peu compliqué. Ça aurait été très, très, très compliqué même. La seule option que j'avais, c'était la salle de lavage, ou pour être plus précis, la laveuse, mais je ne suis pas assez contorsionniste pour que ça réussisse, pour que ça marche, pour que je rentre dedans. Mais on verra peut-être pour les prochaines semaines, à un moment donné... on va pouvoir y arriver. Bref, donc ce soir, j'aimerais initier avec vous une série d'enseignements sur le service. Le thème que j'ai choisi, que j'ai décidé, disons, de mettre à ces enseignements, c'est le service en temps de défi. Mais c'est, on aurait pu dire les défis du service. On aurait pu dire aussi les opportunités que notre service va générer dans ces temps de défi. Ce qui est important, c'est que il y a deux mots qui ressortent dans cette thématique, et c'est le thème service, le mot service, et le mot défi. Pourquoi ces deux mots-là? Bien sûr, parce que le service, eh bien, nous sommes tous appelés à servir. Nous avons été sauvés pour servir. On l'a entendu, on continue à l'entendre et on continue à le répéter. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Nous avons été rachetés par son sang pour servir le Seigneur. Et pourquoi défi? Eh bien, parce qu'on vit dans un temps qui, actuellement, il y a énormément de défis, tant au niveau spirituel, au niveau de société, au niveau économique, au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau d'organisation, tout simplement en tant qu'Église. Les temps qu'on vit représentent énormément de défis. Et nous savons qu'à la sortie de cette pandémie, à la sortie de cette crise, il va y avoir des nouveaux défis qui vont nous attendre. Et je pense que le Seigneur veut préparer nos cœurs, veut que nous soyons préparés, avisés sur les défis qui vont se présenter devant nous. Et c'est ce que nous allons traiter durant toutes les prochaines semaines. Donc, je vous encourage à rester connectés et à suivre ces enseignements pour être le mieux préparé, le mieux équipé, et que le Seigneur vraiment puisse à chacun d'entre nous parler de façon spécifique sur qu'est-ce qui s'attend de nous en tant que service. Car, comme je l'ai déjà dit, et je risque de le répéter souvent durant ces enseignements, nous avons été sauvés pour servir Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous accompagner, de prendre contrôle de ce temps que nous allons passer ensemble et de nous bénir à travers sa parole. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te rendons grâce pour la vie, Seigneur, la grâce que tu manifestes, Seigneur, à notre égard, à tous les jours. Je te remercie, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes d'être réunis ici, Seigneur, en ton nom. de pouvoir, Seigneur, partager cette parole, cet enseignement, qu'il puisse toucher, atteindre nos cœurs, qu'il puisse nous édifier, nous transformer, Seigneur, nous interpeller pour, Seigneur, le travail que tu es en train de faire dans nos vies et vers quoi, Seigneur, tu nous amènes. Alors, je te remercie, Seigneur, pour tout, pour ta parole, pour les cœurs, Seigneur, qui sont disposés à entendre, Seigneur, ta voix. Merci, Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais également remercier le frère Léo qui est ici pour nous donner un coup de main. Sans lui, on n'aurait pas pu. Et grande surprise, je ne m'attendais vraiment pas. Il y a le frère Gilles aussi qui est là. Donc, Seigneur te bénisse, mon frère. Après, tu vas venir donner quelques... Non, c'est pas vrai. Donc, on va aller maintenant au sujet. Donc, oui, le service en temps de défi. Et on va aller regarder dans l'Évangile selon Marc. Il y a là des choses que Marc présente qui vont être vraiment un enseignement, qui vont être vraiment révélateurs pour nous en ce qui concerne ce que Dieu veut faire dans nos vies. Donc, je vais vous inviter à ouvrir dans Marc au chapitre 1. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, nous allons lire les premiers versets qu'on trouve là. Marc, chapitre 1, qui dit comme ceci, « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant à la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À travers cet évangile, l'évangile de Marc, Jésus est présenté comme le serviteur de Dieu. Les autres évangiles apportent tous une facette, un point d'angle, de vue différente, non contradictoire, mais différente du même personnage de Jésus-Christ. Mais Marc met beaucoup l'emphase sur les œuvres de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait d'important? Quel a été son service? Quelles ont été ses œuvres qui ont été les plus importantes dans sa vie. On ne retrouve pas beaucoup d'informations. Marc ne va pas trop dans le détail sur les enseignements de Jésus, bien qu'il en mentionne, mais dans d'autres des évangiles, on retrouve plus de détails. Ça va un peu plus loin. Même au niveau du vocabulaire, Marc n'est pas quelqu'un qui va dans le grand vocabulaire sophistiqué, éloquent. On n'est pas dans les grandes descriptions d'événements ou de scénarios. Marc reste beaucoup dans les faits, dans ce que Jésus fait. Et vous remarquerez que ça a un rythme assez soutenu. Ça a une bonne cadence. Pourquoi? Parce que Marc présente Jésus comme un serviteur qui est en action, comme un serviteur qui est à l'œuvre, comme un serviteur qui est en service et qui a un mandat à faire. Probablement que le verset 45 dans le chapitre 10 de ce même évangile résume dans le fond l'essence qu'on retrouve dans ce livre, et je le lis pour vous, qui dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Mais le Fils de l'homme, Jésus, en tant qu'homme, est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Donc, le portrait qui est dressé dans cet évangile de Marc, c'est de Jésus comme le serviteur. Et on voit qu'il va très, très vite. Même, on ne retrouve même pas de généalogie. Pourquoi? Parce que personne ne s'intéresse à savoir un serviteur, il vient d'où? C'est qui son père? C'est qui son grand-père? Marc saute tout ça. Marc va tout de suite à l'essence même de son sujet, qui est le service. Et même qu'au verset 9 du premier chapitre, ben Jésus est baptisé. Et au verset 14, il prêche déjà. Donc, Marc ne perd pas de temps. Marc, c'est un gars d'action, comme on pourrait dire. Et il présente Jésus comme un homme d'action, comme un homme dont le service est en action constamment. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que Marc, ici, il prend la peine d'introduire, et on l'a vu ici, il prend la peine d'introduire Jésus à travers un autre serviteur. Dans ce qu'on a lu, il introduit Jean-Baptiste, qui lui avait la mission de préparer le chemin pour le Seigneur et d'aplanir les sentiers. Et ça, c'est important à retenir parce qu'on va en parler un petit peu. Ici, il est en train de connecter deux personnes. Il est en train de connecter Jean avec Jésus. Jean, dont le service a précédé le ministère de Jésus, et qui dit en sorte que le service de Jean a servi pour que Jésus puisse lui-même exercer son service et exercer son ministère. Il y a une connexion là, que Marc veut établir entre Jean et entre Jésus. Mais ça, on le sait. On sait. Jean était là pour prêcher la repentance et pour préparer les cœurs, dans le fond, à l'arrivée du Seigneur Jésus. Mais un fait étonnant, il y a un autre détail que Marc mentionne. C'est lorsqu'il dit au verset 2, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » Ce que Marc utilise ici, c'est un texte qui se trouve dans Ésaïe, dans un des chapitres d'Ésaïe, au chapitre 40, le verset 3. Il fait un lien avec un autre serviteur qui a vécu, 600, 700 ans avant Jésus-Christ, avant cette époque-là. Marc prend le soin de connecter les serviteurs. Marc connecte Jean avec Jésus, il connecte Jean avec Ésaïe, ou plutôt il connecte Ésaïe avec Jean, même s'il y avait des siècles et des siècles d'écart. Et ça, c'est important pour nous parce que bien des fois, nous pensons que notre service, que servir Dieu, eh bien, ça se passe juste entre Dieu et nous, ou entre Dieu et moi. Bien des fois, toi, dans ton service, tu penses que ça se passe juste entre Dieu et toi. Mais cela est faux. Et cette façon de penser-là, Dieu veut qu'on soit transformé. Parce que Marc nous le fait voir et Dieu veut nous faire voir également, c'est que nous sommes tous connectés en tant que serviteurs. En tant que personnes qui avons été rachetées, nous avons été rachetés, nous avons été lavés par le sang de l'agneau, nous avons été appelés à servir. Et comme j'ai dit au début, nous avons tous été sauvés pour servir. Alors, nous sommes tous connectés dans ce service. Nous sommes tous connectés dans le plan de Dieu. En étant enfant de Dieu, en étant serviteur de Dieu en 2020, je suis connecté avec Jésus-Christ. Tu es connecté avec Jésus-Christ, mais tu es connecté avec Jean. Tu es connecté avec Ésaïe. Tu es connecté avec Paul. Tu es connecté avec David. Tu es connecté avec Jérémie. Tu es connecté avec Moïse. Tu es connecté avec Josué. Tu es connecté avec Samuel. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu avec le même plan. depuis le tout début, depuis que Dieu a mis en marche son plan pour l'humanité, depuis le temps où ce que Dieu appelle des hommes et des femmes à son service, il connecte les uns avec les autres. Et cela aujourd'hui doit être important pour nous, dans la façon comment nous servons, dans ce que nous appelons service. On devrait donner notre meilleur, non seulement parce qu'on sert le Seigneur. Je pense que ça, c'est la première, principale raison. Nous servons le Seigneur. Mais il faut aussi prendre conscience que nous sommes connectés, que mon service aujourd'hui en 2020 est connecté au service de Paul, est connecté au service de Jean, est connecté au service d'Ésaïe, de Jérémie, de Daniel, d'Ézéchiel. Il y a eu toute cette nuée de témoins de serviteurs qui nous ont précédés et qui ont mis la barre assez haute pour qu'aujourd'hui, toi et moi, dans cette génération, nous servions le Seigneur comme il en est digne. Donc, il y a cette connexion-là que Jean établit, que plutôt que Marc établit, en mentionnant un serviteur qui avait vécu des siècles avant Jean-Baptiste, mais dont la connexion était réelle et elle était vivante. Trop souvent, nous pensons avoir une exclusivité avec Dieu. Nous pensons que nous sommes plus grands que le service. Nous pensons que le service ne peut pas se passer de nous. Mais mes bien-aimés, il faut changer ça. Il faut changer ça parce qu'il faut prendre conscience que beaucoup de serviteurs nous ont précédés. Même plus proches à nous, dans cette même œuvre et dans cette même église, il y a des gens qui ont servi Dieu. Et nous sommes connectés avec leur ministère. Nous sommes connectés avec le service que ces gens-là ont offert à Dieu et ont offert au peuple de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'avec Dieu, que nous sommes exclusifs, que nous sommes si importants de ça aux yeux de Dieu. Parce qu'après tout, oui, nous sommes ses enfants, mais nous sommes ses serviteurs aussi. Et ce qui est important, c'est le maître, c'est pas le serviteur. Mais prenons conscience qu'il y a cette connexion-là. Il faut réaliser que nous ne sommes pas solitaires. Dans cette période-là de confinement, d'isolement, beaucoup de gens ont peut-être pris des habitudes plus solitaires. Mais c'est pas le cas de l'Église. L'Église n'est pas solitaire. Tu n'es pas solitaire. Tu fais partie d'un corps. Tu fais partie d'un grand peuple partout dans le monde qui est appelé à servir Dieu, connecté avec lui et connecté les uns avec les autres. Marc fait donc la connexion avec Ésaïe, fait donc la connexion avec le passé, et Marc présente Jean comme celui qui prépare le chemin de Jésus. Il présente Jean comme celui qui est non seulement connecté avec le passé, mais connecté aussi avec le futur. Il présente Jean comme le pivot qui est connecté avec la génération qui va venir après, la génération de serviteurs, la génération de ministères qui va venir après lui. Et il lui dit clairement quel était son rôle. Son rôle, à travers son service, était de préparer le chemin. Si toi et moi, nous sommes connectés avec tous les héros de la foi du passé, avec tous les ouvriers qui nous ont précédés, nous sommes également connectés avec toutes ces générations qui sont en train de se lever, avec toutes ces âmes qui vont venir après le COVID, et qui vont venir servir Dieu, et qui vont représenter les prochaines générations de serviteurs et de servantes. Et notre responsabilité, à travers notre service, c'est de préparer le chemin pour eux. Jean était connecté avec Ésaïe, il était également connecté avec Jésus. Toi et moi, nous sommes connectés avec nos ouvriers passés, mais nous sommes également connectés avec les jeunes ouvriers, avec les générations qui sont à venir, avec les âmes qui se sont données au Seigneur durant cette période de pandémie et qui vont venir rejoindre l'Église une fois que nous pourrons tous être réunis et qui vont servir le Seigneur et dont Dieu a mis un appel sur leur vie. Il y a cette connexion, bien-aimé, qui fait en sorte qu'on ne peut plus regarder notre service de la même façon. On ne peut plus regarder notre vie comme si c'est juste notre vie. Ce n'est pas juste notre vie. Ce n'est pas juste ma relation avec Dieu. Ce n'est pas juste ma petite prière. Ce n'est pas juste mon petit service que je fais là en cachette. Non, bien-aimé, nous sommes connectés avec le passé. Et nous sommes connectés avec le futur. Et parce qu'aujourd'hui, nous sommes vivants. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes la génération qui sert. Nous avons cette responsabilité-là, bien-aimé, de préparer le chemin. Nous avons cette responsabilité-là de préparer le chemin. Et de quelle façon? Remarquez une chose. Jean, quand il annonçait Jésus, il disait que Jésus était plus puissant que lui. Jean disait que Jésus ferait de plus grandes choses, que lui n'en était pas digne, n'était même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Jean était en train de dire, mon travail est non seulement de préparer le chemin pour la génération qui vient, mais également pour leur permettre qu'eux aillent plus loin et qu'eux fassent de plus grandes choses. Jean comprenait l'importance de son mandat et l'importance d'accomplir sa tâche du mieux qu'il pouvait parce qu'il savait que ce Jésus, ce serviteur qui allait venir après lui, allait être plus puissant que lui et allait faire de plus grandes choses que Jean. Et Jésus, il a dit des paroles également à son Église. Et il a dit que celui qui croira en lui, vous le trouvez dans Jean chapitre 14, verset 12, que celui qui croira en lui fera de plus grandes choses que Jésus, parce que lui, il va au Père. Jean prépare le chemin pour que Jésus fasse de plus grandes choses et le service de Jésus a servi pour notre rédemption, oui, mais a servi également pour préparer le chemin de l'Église. Et Jésus dit, l'Église fera de plus grandes choses que moi parce que j'ai préparé le chemin, parce que j'ai aplani les sentiers et parce que je donne ma puissance à mon Église pour qu'elle aille encore plus loin et qu'elle fasse encore de plus grandes choses. Mon service, je ne peux plus le regarder de la même façon. Si je suis connecté avec le passé et si j'ai la responsabilité de préparer le chemin pour l'avenir, pour les générations suivantes, je ne peux plus servir de la même façon. Parce que j'ai la responsabilité de préparer la prochaine génération pour qu'elle aille plus loin avec le Seigneur, pour qu'elle aille plus loin dans le royaume de Dieu. J'ai cette responsabilité-là. Tu as cette responsabilité-là de préparer le chemin, de faire en sorte que la prochaine génération aille plus loin et fasse de plus grandes choses que nous. Peut-être c'est pas agréable, peut-être que nous, on aimerait être la génération qui va atteindre le summum. Peut-être nous aimerions être la génération qui va atteindre le maximum, qui va atteindre le sommet, qui n'aura plus rien après nous. Mais ce n'est pas comme ça. Chaque génération doit aller plus loin avec le royaume de Dieu. Chaque génération doit aller plus loin avec le royaume de Dieu. Et chaque génération doit faire de plus grandes choses pour le royaume de Dieu. Mais la génération qui est là maintenant, nous avons cette responsabilité-là. par notre service et par la façon comment nous servons le Seigneur, de préparer le chemin et de s'assurer que ceux qui viendront après, encore une fois, ceux qui sont en train de grandir au sein même de notre Église, et les âmes qui vont se joindre à nous, puissent aller plus loin. Si la prochaine génération ne va pas plus loin, en quelque sorte, nous, en tant que génération actuelle, nous aurons échoué dans notre service et dans notre travail, à quelque part. Donc c'est pour ça, bien-aimé, que je vous invite à changer de vision par rapport au service. Aujourd'hui, on ne va pas parler des défis, on va parler du service. Il faut changer la vision du service. Parce que il y a une grande nuée de serviteurs de Dieu qui nous ont tendu le flambeau. Et à un moment donné, nous allons donner le relais à une autre génération et à d'autres serviteurs. Et nous avons la responsabilité de bien faire cela. Et on ne peut pas le faire bien si aujourd'hui, nous ne servons pas bien le Seigneur, avec une bonne vision, avec la vision qu'il faut, qui est nécessaire pour nous. Aujourd'hui, il faut servir Dieu avec une vision beaucoup plus grande, plus large que nous-mêmes. Une vision qui tient compte du passé, une vision qui tient compte du futur. Servir Dieu aujourd'hui, sans ce renouvellement dans la vraie vision de Dieu, va nous apporter bien des problèmes à la sortie de cette pandémie. Je répète, servir Dieu sans être renouvelé dans la vision de Dieu par rapport au service va nous amener beaucoup de problèmes une fois qu'on sera sorti de cette pandémie et qu'on fera face aux défis qui nous attendent. C'est pour ça, bien-aimé, qu'il est important aujourd'hui de comprendre que nous ne sommes pas solitaires. Nous sommes connectés avec nos prédécesseurs, mais également nous sommes connectés avec ceux qui vont venir après nous. Et nous avons cette responsabilité-là de préparer le chemin et de faire en sorte qu'ils aillent beaucoup plus loin que nous et qu'ils fassent de plus grandes choses, qu'ils vivent une dimension de puissance et de gloire encore plus grande que nous. Les générations sont importantes pour le Seigneur. Les générations sont importantes pour le plan de Dieu. Et Israël, lorsque Israël était captif en Égypte et qu'Israël fut délivré, Israël fut délivré pour servir Dieu. Dans Exode, on le retrouve, Exode chapitre 7, verset 26, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Dieu a libéré Israël de l'esclavage pour qu'Israël le serve. Tout comme nous. Nous avons été libérés du péché pour servir Dieu. Et donc, cette première génération qui est sortie d'Égypte, qui a été délivrée de l'esclavage, cette première génération allait être la base pour initier ou pour aller de l'avant avec le plan de Dieu à travers l'histoire de l'humanité et qui serait le premier échelon de serviteurs de Dieu. Mais voilà que cette génération-là qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée dans la terre promise, n'est pas rentrée dans la terre où coule le lait et le miel, comme Dieu avait promis. Ils ne sont pas rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts dans le désert. Et on sait tous pourquoi ils sont morts dans le désert. À cause de leur murmure, à cause de leur rébellion, à cause de leur manque de foi, à cause de leur mauvais cœur. Et en faisant cela, ils ont refusé de servir Dieu. En disant qu'ils préféraient être mille fois mieux en Égypte. Lorsqu'il se plaignait, lorsqu'il murmurait, il critiquait. Il trouvait peut-être une justification, un raisonnement dans ce qu'il disait. Mais une chose était claire, c'est que cette génération-là a refusé de servir Dieu. Et en prenant cette position-là, cette génération-là mettait en péril la suite. En prenant cette position-là, en ayant cette attitude de cœur-là, cette génération-là mettait en péril les prochaines générations, dont la génération qui suivait, qui allait entrer en Canaan. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit que toutes ces générations-là, à part Josué et Caleb, toutes ces générations-là n'entreraient pas. En d'autres mots, Jésus a sauté une génération. La première. La première génération de serviteurs, la première génération de personnes appelées à servir Dieu, Dieu a juste sauté cette génération-là. Et Dieu a décidé de repartir à neuf avec la génération qui viendrait par la suite. C'est pour ça que Dieu a dit, tous ceux qui ont 20 ans et moins vont rentrer. Les autres, ciao, bye. Vous resterez dans le désert. Pourquoi? Parce que vous avez refusé de servir Dieu. Dieu a sauté une génération entière parce que son plan était en péril, si on peut dire. Dieu a rejeté Saül. Saül qui, probablement, alors qu'il était roi, était dans la force de son royaume. Et Dieu est allé choisir et oindre un gamin. Dieu a rejeté une génération pour s'en choisir une autre. Parce que Saül ne servait plus le Seigneur comme il devait. Et bien aimé, ceci est très important. De servir Dieu de tout notre cœur. De servir Dieu avec tout. Parce que la prochaine génération en dépend. Et ce serait horrible que Dieu saute notre génération à cause de la mauvaise attitude de notre cœur. À cause que nos murmures, nos critiques, nos rébellions envers lui, notre mauvais cœur fait en sorte qu'on ne serve plus. Qu'on ne soit plus dans son service actif. Et que Dieu n'a juste pas d'autre choix de nous mettre à l'écart et de recommencer avec une nouvelle génération. Il ne faudrait pas que ça nous arrive. C'est pourquoi, bien-aimés, prenons conscience. Ayons un renouvellement dans notre vision. Ayons un changement d'attitude. Ayons un changement de cœur. Soyons conscients qu'il y a une nuée de témoins qui voient ce que nous faisons aujourd'hui. Et il y a une autre nuée de témoins qui vont imiter ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous avons la responsabilité de servir Dieu comme il se doit pour préparer le chemin et pour bien passer le relais et préparer la prochaine génération de serviteurs. Vous allez peut-être me dire, « Ok, mais j'ai pas un poste, j'ai pas une position, j'ai pas un titre, comment tu veux que je serve? J'ai pas de talent pour la musique, j'ai pas de talent pour le chant. Comment est-ce que tu veux que je serve? » Ou tu me diras, ben, je suis très très occupé, j'ai mon emploi, j'ai une carrière, est-ce qu'il faut que je laisse ça pour pour aller en temps plein dans le ministère, que je serve Dieu. Écoutez, Daniel, lorsqu'il a été en captivité avec le peuple, Daniel, à un moment donné, a été établi par le roi Darius comme gouverneur sur des satrapes, sur 120 satrapes. Ces satrapes, c'était des gens de vice-rois, des gens de gouverneurs, des gens qui avaient été mis là par le roi Darius pour l'aider à gouverner sur toutes les provinces de l'Empire. Il y avait 120 provinces. Et sur ces satrapes, il y avait trois gouverneurs que le roi établit. Et parmi ces trois-là, il y avait Daniel. Donc Daniel avait une position très élevée dans l'Empire. Et on pourrait imaginer qu'il avait un agenda pas mal plein, n'est-ce pas? Il avait une carrière. Si on l'amène au type de corporation, mettons, à une entreprise aujourd'hui, c'est comme si Daniel aurait un poste de vice-président. Donc, un poste assez haut dans la gestion, dans la direction d'une organisation ou d'un gouvernement. Mais la Bible dit que il servait Dieu et la seule chose qu'on nous montre de David, pardon, de Daniel, c'est qu'il priait. Et à un moment donné, les autres satrapes, les autres gouverneurs ont voulu tendre un piège à Daniel. Et ils ont fait que le roi adopte une loi dans laquelle personne n'avait le droit de prier à un autre Dieu qu'au roi. Et ça a mis Daniel dans une position. Mais Daniel, dans une position délicate, mais lui a continué à prier. Et dans ce passage-là, le roi, lorsqu'il s'adresse à Daniel, et il dit, Daniel, toi qui sers ton Dieu si fidèlement. Et après, lorsque Daniel est jeté au lion, et le lendemain, lorsque le roi retourne voir, il pose la question, il dit encore la même chose, Daniel, est-ce que le Dieu dont tu sers continuellement? Marquez une chose, la seule action que la Bible nous parle de Daniel, c'était qu'il priait. Il priait. Et ça a été suffisant pour que le roi, l'homme le plus important de ce monde à l'époque, l'appelle non pas par son titre. Et vous savez que lorsqu'on est dans les hautes sphères du pouvoir, il y a un protocole. On appelle les gens par leur position. On aurait dit Daniel, gouverneur de... Mais Darius lui-même reconnaît que le rôle le plus important dans la vie de Daniel, ce n'était pas qu'il soit gouverneur sur l'Empire, mais c'était qu'il soit un serviteur du Dieu vivant. Daniel était un gouverneur. La seule action qu'on voit dans la Bible, c'est qu'il priait. Eh bien, bien-aimé, peut-être que tu n'as pas un micro aujourd'hui. Peut-être que tu ne fais pas un service qui est visible. Peut-être que tu n'as aucun service, que tu es là à la maison et que tu te demandes, OK, je dois servir Dieu, mais comment? Voici comment tu peux commencer en priant. Prier, c'est servir Dieu. Prie. Développe ta vie de service en priant, en passant du temps en prière. Et tu vas voir avec le temps, Dieu va amener des opportunités pour le servir. Mais commence là. Commence à prier. Recherche pas quelque chose de visible ou de non, de grand, non. Dieu, c'est un Dieu d'étape. Et une chose que j'ai appris et que nous tous avons appris, c'est qu'avec Dieu, il ne faut pas brûler des étapes. Mais une chose, je peux dire, c'est que si nous sommes rendus où nous sommes rendus aujourd'hui, c'est qu'il y a eu de la prière. Il y a eu beaucoup de prière. Et tu peux commencer par servir Dieu de cette façon-là, en priant. Et peut-être tu te dis, OK, mais je veux prier sur quoi, sur qui, sur comment? Commence à prier. Et juste demande au Seigneur de remplir ce temps de prière. Et tu vas voir comment tu vas en avoir du stock à prier. Comment tu vas avoir de la matière à couvrir dans la prière. Et ça va être lorsque tu vas connaître Dieu, tu vas développer une vie au service de Dieu dans la prière. Donc, non, laisse pas ton emploi, laisse pas ta carrière, à moins que Dieu t'appelle et que ce soit clair. Mais laisse pas ton travail. Sers le Seigneur en commençant dans la prière, comme Daniel l'a fait. Et tu verras les opportunités que lui ouvrira pour toi. Donc, je vous encourage, bien-aimés. Nous qui sommes là, la génération d'aujourd'hui, prenons conscience de ce renouvellement dans la vision par rapport au service qui est nécessaire. Parce que nous sommes connectés à Jésus. Nous sommes connectés à Jean, à Paul et à tous les autres. Mais nous sommes également connectés à ceux qui viennent après nous. Et nous avons cette responsabilité de bien passer le relais. De passer le bâton, comme on dit, de la bonne façon. Et de bien préparer le chemin. Je vous encourage à vraiment... Laissez que Dieu sonde votre cœur. Laissez que Dieu vous parle sur comment est-ce que vous avez servi jusqu'à maintenant. Dans quelle vision, dans quelle perspective vous l'avez fait. Parce que même si c'est pour être portier, c'est un service qui est connecté à tous les autres serviteurs qui nous ont précédés. Et même si vous êtes à la cabine de son, ou vous êtes à l'école du dimanche, c'est un service qui a pour rôle de préparer un chemin. Le chemin. De préparer la prochaine génération. Donc, je vous encourage. Faisons notre service comme il se doit. Et changeons de vision par rapport à ce service pour être sûr que lorsque nous allons sortir de cette pandémie, nous allons être connectés les uns avec les autres et nous allons avoir une vision qui est précise et claire sur qui nous sommes et quel est notre rôle à jouer dans le plan de Dieu pour pouvoir voir la gloire de Dieu éclater au milieu de nous et voir des vies être changées, voir le royaume de Dieu avancer et voir le nom du Seigneur être béni, être glorifié. Donc, je vous laisse avec ces paroles. Je vais faire juste une prière et je vais vous inviter à juste méditer là-dessus et à prier là-dessus. Et les prochaines semaines, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à certains défis que je pense que le Seigneur veut déjà nous amener de la lumière pour que nous ne soyons pas pris par surprise, mais que nous puissions être le mieux préparés pour servir. Parce que c'est à travers notre service que Dieu va se glorifier. C'est à travers notre service que beaucoup de choses dans notre société, nous allons voir des guérisons dans notre société. Alors, prions. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, pour cet enseignement. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous parles, tu nous instruis. Seigneur, parce que tu es avec nous, tu es à l'œuvre. Tu nous as sauvés, tu as payé le prix, Seigneur, de notre rachat pour que nous te servions. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes la génération qui se doit d'être en action dans le service. Je te demande, Seigneur, de parler à nos cœurs, de nous renouveler dans cette vision par rapport au service. Nous ne sommes pas tout seuls. Et il y a eu un avant et il y aura un après nous. Et nous avons, Seigneur, ce grand privilège d'être connectés avec tous ces serviteurs du passé, tous ces hommes et ces femmes qui t'ont servi, Seigneur. Mais nous avons également, Seigneur, le privilège de préparer le chemin pour le futur, pour les générations à venir, pour les âmes, Seigneur, qui viendront joindre les rangs de l'Église et joindre, Seigneur, les rangs du service pour l'avancement de ton royaume. Permets-nous, Seigneur, de nous voir, nous, ce que nous sommes dans ton plan. Nous ne sommes pas plus grands que ton plan. Nous ne sommes pas plus grands, Seigneur, que le service même. Nous sommes petits. Nous n'étions rien. Et toi, Seigneur, tu nous as appelés. Toi, Seigneur, tu nous as sauvés. Et tu nous as amenés dans un lieu pour pouvoir te servir, Seigneur. Et tu t'attends de nous, Seigneur, d'une qualité de service. Qu'également, je te demande, Seigneur, de nous aider à nous améliorer jour après jour dans le service que nous rendons à toi, Seigneur. Que là où nous sommes, Seigneur, si nous faisons du télétravail, si nous sommes à la maison, si nous faisons partie, Seigneur, des services essentiels, si, Seigneur, nous sommes dans une manufacture, si nous sommes dans une usine, si nous sommes dans notre voiture, en train de travailler, Seigneur, que nous puissions te servir en commençant par développant la prière. Parler avec toi. Que tu sois dans nos pensées constamment. Que nous puissions, Seigneur, écouter aussi, apprendre à écouter ta voix. La prière, ce n'est pas juste de parler, Seigneur, mais c'est d'écouter également. Que nous puissions être à l'écoute de ta voix, de ta parole. Que nous puissions développer, Seigneur, cette relation. Ta parole dit, Seigneur, que les serviteurs voient la main de leur maître qui donne les indications et qui comprennent le message. Que nous soyons, Seigneur, aussi près de toi, que nous puissions comprendre également l'œuvre de tes mains. Ce que toi tu fais, nous puissions le faire également. Jésus a dit, « Mon Père agit, j'agis moi aussi. Ce que je vois de mon Père, je le fais. » Nous, ce que nous voulons, ce que nous voyons, ce que nous devrions voir de toi, Seigneur, nous voulons le mettre en pratique en tant que serviteur. Alors je bénis, Seigneur, nos bien-aimés. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Bon restant de semaine, n'oubliez pas, demain matin, la bénédiction matinale. Il y aura également vendredi, assemblée de prière à 19h et à 20h, il y a la réunion des jeunes avec Zoom, ou dans Zoom plutôt. Alors que Dieu vous bénisse, bonne soirée, allez en paix.